Psaume 90. L'homme de Dieu faisant appel à l'Éternel qui, de génération en génération, est la ressource de son peuple. Verset 1. Le psaume commence par un appel sublime à l'Éternel qui a été la demeure de son peuple. L'homme de Dieu passe en revue toutes les générations du peuple de Dieu. Il voit, pour ainsi dire, Abraham, Isaac et Jacob, pèlerins et étrangers, sans demeure fixe. Il rappelle les années d'errance dans le désert, quand Israël était sans demeure et sans pays, exposé aux dangers et aux périls, et au travers de toutes ces générations, le psalmiste constate que l'Éternel a été la demeure et le refuge de son peuple. S'appuyant sur le fait béni que l'Éternel est la ressource des siens, l'homme de Dieu peut considérer en face la fragilité et les manquements du peuple de Dieu. Sur ce fait, il peut fonder chacune des expressions de son appel. Versets 2 à 6. Une fois posé le fondement de la confiance qui lui permet de crier à Dieu, le psalmiste établit le contraste entre le Dieu éternel et l'homme mortel. Dieu est le Dieu qui ne change pas, le même tant avant que le monde fut que maintenant. La création passera, mais Dieu demeure. Celui qui est notre ressource est éternel et toujours le même. D'éternité en éternité, tu es Dieu. En opposition avec Dieu, le psalmiste voit la sujétion de l'homme à la mort et à l'écoulement du temps. Dieu est immortel, mais l'homme est mortel et retourne jusqu'à la poussière. Dieu ne compte pas le temps comme l'homme le fait. 1000 ans à ses yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. De plus, un monde paraissant établi pour durer éternellement est emporté par un torrent et, comme des hommes qui dorment, ceux qui sont enlevés sont inconscients de ce qui se passe sur la terre. Malgré tout leur bel étalage de gloire et de puissance, les hommes périssent comme l'herbe qui fleurit et reverdit au matin, mais qui, le soir, est coupée et sèche. En son temps, Joseph a été établi gouverneur de tout le pays d'Égypte, mais la dernière chose qui nous est dite de lui, c'est qu'il fut mis dans un cercueil en Égypte. Genèse 50, verset 26. Toute la gloire de l'homme prend fin dans la poussière de la tombe et dans les ténèbres de la mort. Tel est l'homme faible et déchu, car le psalmiste parle de l'homme naturel, non pas de l'homme spirituel, du premier homme, non pas du second, de l'homme terrestre, non pas du céleste. Versets 7 à 10. La foi cependant regarde au-delà des circonstances changeantes du temps et discerne, au travers de toutes ces choses, les voies de Dieu dans son gouvernement à l'égard de son peuple pour la réalisation de ses propos. Aussi y a-t-il la confession des péchés, manifeste et secret, tous sont devant Dieu, et la conscience que les péchés entraînent à juste titre le jugement gouvernemental de Dieu. Si nous connaissons le dépérissement et si nos années se consument, nous devons y voir la juste récompense de nos actes. Ainsi, en nous condamnant nous-mêmes, nous justifions Dieu dans ses voies envers nous. Il se peut, grâce à notre vigueur, que nos jours se prolongent au-delà des 70 ans qui nous sont départis. Mais même alors, la force dont nous nous vantons et les années dont nous nous glorifions n'apporteront que peine et vanité. Versets 11 et 12. Nous prendrons conscience de la colère de Dieu contre le péché en proportion de notre crainte de Dieu. La crainte résulte de la connaissance et de la confession selon la vérité de ce que Dieu est. Plus nous sommes conscients de sa sainteté, mieux nous mesurerons sa haine du péché. « Et tu ne crains pas Dieu ?» dit le brigand sur la croix. Sachant qui Dieu est, il réalise également la sainte colère de Dieu contre le péché, car il ajoute aussitôt « Nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. » Luc 23, versets 40 et 41. Ainsi, l'homme de Dieu désire que nous acquérions un cœur sage, c'est-à-dire un cœur qui craint Dieu. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Verset 13. La crainte de Dieu et la confession du péché sont suivies de la confiance en Dieu. Aussi le psalmiste fait-il tout de suite appel à la bénédiction de l'Éternel. De même, le brigand sur la croix, avec la crainte de Dieu dans son cœur et la confession des péchés sur ses lèvres, peut immédiatement s'adresser avec confiance au Seigneur et dire « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Dans le même esprit, l'homme de Dieu dit « Éternel, retourne-toi, jusque à quand ? Et repens-toi à l'égard de tes serviteurs, rassasie-nous au matin de ta bonté. » Le fidèle reconnaît par la foi que le propos de Dieu est de bénir son peuple et, par conséquent, il sait qu'il doit y avoir une fin au temps de l'affliction et des peines dans les voies gouvernementales de Dieu. Ainsi, il dit « Jusque à quand ?» C'est le langage de la foi et de l'espérance, de la foi dans le propos de Dieu de bénir et de l'espérance qui va jusqu'à la bénédiction à venir. Versets 14 et 15. Sa foi devenant plus hardie, le psalmiste peut dire « Rassasie-nous au matin de ta bonté ». Il compte sur Dieu pour rassasier sans fin et non pas sur des hommes instables ou des circonstances qui passent. Cependant, le fidèle réalise que la satisfaction ne peut être donnée à un pécheur coupable qu'en vertu de la grâce, d'où son cri « Rassasie-nous de ta bonté ». Le résultat glorieux est « Nous chanterons de joie et nous nous réjouirons tous nos jours ». Le psalmiste prie donc « Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous avons vu des maux. » Verset 16. Mais si Dieu agit en grâce, cela doit être en vertu de sa propre œuvre. Aussi trouvons-nous tout de suite cette prière « Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta majesté à leurs fils. » L'efficace de son œuvre repose sur la majesté de sa personne. Ternir la majesté de sa personne, c'est amoindrir l'efficace de son œuvre. Verset 17. De plus, la bénédiction qui découle de l'œuvre de Dieu surpassera de beaucoup la réponse à nos besoins et la délivrance des peines du chemin. L'aboutissement est que la beauté du Seigneur sera sur nous, ou pour prendre le langage du chrétien, que nous serons conformes à l'image de son Fils. Alors, quand la bénédiction aura été donnée par grâce, nous verrons que l'œuvre de nos mains sera établie. Les œuvres de propre justice passeront, mais celles que nous aurons pu accomplir par la grâce seront établies. Aucune coupe d'eau froide donnée pour l'amour de Christ ne sera oubliée.